Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 721 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast. À mes côtés, Victor Roulier, bonjour Victor.
Bonjour Alain, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Victor, on a une journée d'avance parce que oui, il y a eu moins de matchs à débriefer, donc on avance un petit peu la preview, pourquoi pas, hein, les finales de conférence arrivent, on est chaud, on a envie de savoir ce qui va se passer. Comment ça va Victor?
Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. On a eu un week-end de très très haute qualité en termes de jeu au niveau de divisional. Comme beaucoup d'années d'ailleurs, c'est souvent le plus beau week-end. Mais là, particulièrement, après ce week-end-là, on ne peut être qu'enthousiaste pour les derniers matchs.
Oui, parce que l'étau se resserre. Tu commences à savoir qui tu pourrais voir à Las Vegas. On rappelle que c'est toi qui vas au Super Bowl avec Mathieu Pasquier.
Attends. On touche du bois et tout. Je n'y croirai pas tant que j'ai pas passé la douane. Jurisprudence Raoul Villeroy.
Très bien. Mais le fait est qu'il ne reste plus que 4 équipes en course pour que tu les vois. Et on va faire la preview justement de savoir qui vous allez voir à Las Vegas. Les Chiefs peuvent-ils continuer leur marche vers le doublé? Les Lions peuvent-ils continuer leur épopée improbable de finale de conférence au programme? On l'a dit avec un jour d'avance. Les pronos, les meilleures cotes, ils sont là. Petit générique et c'est parti.
It's time baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir. We're gonna work on three! One, two, three, work!
On commence avec le match qui aura lieu dimanche 28 janvier à 21h. Le coup d'envoi est à 21h entre les Baltimore Ravens, tête de série numéro 1 en AFC, et les Kansas City Chiefs, tête de série numéro 3 de cette même conférence. C'est la 6e finale de conférence consécutive pour les Kansas City Chiefs. Ce n'est pas un record. Victor, c'est quoi le record?
Ça doit être les Patriots, du coup?
Oui.
Non qui, oui. Qui ont dû en faire 8.
C'est ça, bien joué. Ouais. 2011 à 2018. Ceci étant dit, je te dis que c'est un record, mais j'ai pas vérifié au-delà des Patriots. Ça se trouve, il y a un mec dans les années 70 qui a cartonné.
Peut-être les Cowboys ou les Steelers dans les années 70, mais je pense qu'ils... Enfin, après, c'était même pas encore le même format, pas le même nombre d'équipes, donc un peu difficile.
Oui, c'est vrai. En tout cas, dans un passé récent, les Patriots ont joué 8 de suite. Les Chiefs ont 6. C'est quand même déjà un exploit. Hein. Les Patriots, c'était irrationnel. La dernière fois que les Ravens et les Chiefs se sont joués, c'était en septembre 2021, donc c'est plutôt loin, les effectifs ont pas mal changé, les Ravens avaient gagné 36-35. Ils se sont joués aussi en 2020, en 2019 et en 2018, à chaque fois il y avait Lamar Jackson et Patrick Mahomes, et les Chiefs avaient gagné 3 fois. Donc avec Mahomes et Jackson, ça fait 3-1 pour les Chiefs. Ceci étant dit, sur ce match, est-ce que les Ravens sont favoris, Victor?
Oh bah, il apparaît clair après ce week-end de Divisional que les Ravens sont les grands favoris de ces finales de conférence parmi les 4 équipes, hein, j'ai pas peur de le dire. ils ont eu une performance. Alors, ils ont eu la première mi-temps un peu coussi coussa parce que tu sors de trois semaines où t'as pas joué, etc. Très bien, notamment offensivement, parce que défensivement, ils prennent trois points sur l'ensemble du match. Et ils sont réveillés en deuxième mi-temps. Mais je trouve que ce qui fait absolument peur, c'est cette défense qui a eu un niveau de domination qui rappelle les Ravens de 2000, les Bucks de 2003, les Seahawks de Legion of Boom, ce genre de choses, quoi. C'était ce genre de rouleau compresseur qu'on avait l'impression de voir.
Baltimore tourne à 33,1 points de moyenne en attaque sur les 11 derniers matchs. On va parler de la défense après. Mais en attaque, ils sont à plus de 33 points par match. Est-ce que c'est là la clé? Les Chiefs sont la deuxième défense de la saison sur les points encaissés, donc c'est aussi une bonne défense. Si Baltimore met plus de 30, a priori, ça passe? C'est l'équation?
Oh oui, oh oui. Oui, oui, je descendrai même jusqu'à 27 par là. Je pense qu'en effet, là où c'est paradoxal, c'est que on se concentre sur Jackson Mahomes, mais finalement, comme tu dis, les défenses en face sont très bonnes. Lamar Jackson et Todd Monken et toute cette attaque des Ravens, elle doit continuer à faire ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire, au fil du match, identifier là où ils sont forts et appuyer là-dessus. Au sens où, si c'est le jeu au sol qui passe, ils peuvent courir de plein de manières différentes avec plein de joueurs différents. Si c'est le jeu aérien qui passe, ils ont aussi de quoi faire avec des menaces sur les tracés intermédiaires, avec des menaces sur les tracés longs. Donc c'est une équipe ultra complète et il va falloir qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont fait depuis des semaines, c'est-à-dire être plus intelligent que l'équipe en face.
Les Chiefs marquaient 21,8 points par match en moyenne cette saison. Ils n'ont pas passé les 30 points en play-off cette année. C'est pour ça que je donnais le chiffre de 30, mais t'as raison, on peut presque descendre à 25.
Le problème, c'est qu'après, les Chiefs, on l'a vu la semaine dernière, ils sont tellement inoxydables que t'as l'impression que la saison régulière ne vaut plus rien, en fait.
C'est vrai aussi, on va reparler de ça. Les Chiefs ont eu du mal à stopper le jeu au sol des Bills sur le début du match de Divisional. Les Ravens avaient la meilleure attaque au sol de la Ligue en saison régulière. Est-ce que c'est là que ça va faire mal pour Kansas City?
Je pense que c'est la clé. Je pense que c'est la clé parce que, en fait, dominer au sol, ça permet vraiment de fatiguer la défense adverse, ça permet de marquer des points et ça permet de contrôler l'horloge. On le sait, on le répète toutes les semaines, c'est impensif. Le meilleur moyen de ne pas être sous la menace de Patrick Mahomes, c'est de ne pas lui donner le ballon dans les mains. En général, ça marche bien comme tactique. Donc, oui, je vois tout à fait le scénario où Baltimore fait 35 courses pour 280 yards et après ils font 17-18 passes, tu vois, histoire de d'agrémenter le truc, mais une victoire à la Baltimore, quoi, pas flashy mais efficace et inéluctable.
D'autant que la course, c'était un peu le point faible des Chiefs dans leur défense cette année. Ils étaient à 4,5 yards par course autorisé, 24e en NFL seulement là-dessus, alors qu'ils avaient été plutôt bons en global. Mais c'est oui, ça va être le point faible, ça va être là-dessus que ça va appuyer. C'est un match, tu le disais, hein, de défense. Je suis comme toi, en préparant, je me disais, oui, Jackson Mahomes, en fait, c'est un peu secondaire derrière ses défenses. On a parlé de celle des Chiefs, mais tu le disais bien, celle des Ravens, elle est terrifiante. C'est l'équipe qui prenait le moins de points. En fait, c'est la seule équipe qui prenait moins de points que les Chiefs cette année. C'était les Ravens. Ils étaient numéro 1 sur les sacks. Donc, le défi est monumental pour Patrick Mahomes. On a l'impression que il a eu plein de défis dans sa carrière. Il a déjà fait plein de trucs en playoff, donc je sais pas si c'est le plus gros ou pas, mais c'est un énorme défi, c'est à l'extérieur, c'est ça. Sur les 6 finales de conférence, c'est la première fois qu'il joue à l'extérieur, ce qui est quand même assez dingue aussi. Donc, ça va être encore un niveau au-dessus. Est-ce que c'est le moment où les Chiefs vont être rattrapés par leur manque de talent cette année du côté offensif?
Alors, je vais pas être aussi catégorique parce que les Chiefs, on semble prendre un malin plaisir à nous faire mentir toutes les semaines. Mais ce qui est vrai, c'est que cette défense de Baltimore, elle est absolument incroyable. Et en fait, ce que je trouve prodigieux, c'est que la ligne défensive de Baltimore, quand tu la regardes joueur par joueur, c'est des très bons joueurs. Matt Dubuque, Michael Pierce, Kyle Van Noy, Jadeveon Clowney. Mais Jadeveon Clowney, carrière un peu en dents de scie. Van Noy, bon, bah, il a plus 20 ans, etc. Que des joueurs où tu te dis, c'est pas mal, mais c'est pas non plus élite. Et pourtant, tous ensemble, ils forment aujourd'hui la ligne défensive la plus redoutable de la NFL. C'est ça qui est assez prodigieux, et c'est bravo au coaching aussi, hein, parce que le coaching n'est pas pour rien. Derrière, ils savent que pour punir, t'as Patrick Quinn, Roquan Smith, et même derrière, t'as Kyle Hamilton et Marcus Williams, donc t'as pas envie de tester le milieu du terrain. Et sur les côtés de terrain, on verra si Marlon Humphrey est de retour, parce que c'est quand même extrêmement important comme présence pour cette défense. Mais si on l'a bien vu au Super Bowl Chiefs-Buccaneers, si tu mets Mahomes sous une pression dingue, d'autant plus que maintenant, il a plus de Tyreek Hill, quoi. Il a que des mecs moyens bons en tant que receveur et un bon tight end, tu peux le faire dégoupiller aussi. Donc,
Et puis, il n'y a pas un milliard. Tu disais qu'il n'y a pas de Tyreek Hill. Il n'y a pas un milliard d'armes. C'est-à-dire que Travis Kelce et Rashee Rice ont 12 réceptions chacun sur les deux matchs de playoff. Et derrière, c'est Noah Gray, 4 réceptions. Marquez Valdes-Scantling, 3. Tu peux aussi te concentrer sur Kelce et Rice. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Mais, tu vois, j'ai l'impression que Baltimore a les moyens d'isoler aussi un petit peu et puis de laisser Mahomes avec peu de solutions.
Bah, sur le papier, oui. Mais après, je te dis, c'est cette équipe des Chiefs. Elle veut pas mourir. Valdes-Scantling, qui a pas fait une réception depuis à peu près 92, le mec, il te sort deux réceptions la semaine dernière où tu te dis, mais c'est un top receveur dans cette ligue. C'est le Odell Beckham des années Giants. Qui sait? Non, c'est Marcus Valdes-Scantling qui se met à faire des réceptions à une main. Enfin, bon, je veux dire, je sais pas. J'ai l'impression que cette équipe, elle trouvera toujours un moyen de rester dans des matchs et voire même de les gagner.
Faut se rappeler qu'en finale de conférence l'an dernier, Marquez Valdes-Scantling, il sort 6 réceptions pour 116 yards et un touchdown contre les Bengals. Donc c'est un joueur de play-off peut-être, on va dire ça comme ça. Il y a Isaiah Pacheco dont on n'a pas encore parlé. Est-ce que lui aussi ça peut être le super factor X? Est-ce que les Chiefs en fait peuvent gagner sans avoir un gros jeu au sol?
Difficile, il va falloir. Après, Pacheco, c'est une arme au sol et dans les airs, il va falloir un grand Pacheco, il va falloir un Clyde Edwards-Helaire qui supplée bien en coureur numéro 2 comme il l'a fait la semaine dernière. Bah, toute façon, vu la différence de niveau des deux effectifs, il va falloir un match parfait des Chiefs. Ils sont capables de le faire, mais c'est quand même assez difficile de se dire il faut un match parfait du jeu de course, du jeu de passe, de la défense, tout en même temps. Ça va être un vrai défi.
On parle quand même un peu de Patrick Mahomes, double MVP, Lamar Jackson, probable double MVP dans quelques semaines. On arrive sur le tard sur le duel des quarterbacks. Encore une fois, on aurait pu commencer par ça. Mais avantage Mahomes à l'expérience ou Lamar Jackson sur la dynamique?
Avantage à Lamar quand même parce que...
Il a jamais joué de finale de conférence.
Oui. Mais il y avait ce côté, oui, tu te choques en playoff, tu machin, tu truc, ce qui, entre guillemets, était ridicule. Hein. Regardez les premières années de Manning, de Marino, même de Montana sur certaines campagnes. Vous verrez que c'est pas toujours l'histoire qu'on raconte après coup. Bref, même Brady sur le premier triplé. Mais là, Lamar Jackson, j'ai l'impression que à 10-10, à la mi-temps, apparemment, il a fait un speech dans les vestiaires. Et les mecs sont revenus transformés et il a réalisé une performance absolument colossale. Donc, je trouve quand même que cette équipe des Ravens, elle est sur une pente extrêmement ascendante. Et bizarrement, on a presque l'impression qu'ils le montent sans aucune difficulté. Ils explosent leur plafond de verre chaque semaine. Et je donnerais quand même l'avantage de la dynamique aux Ravens.
Moi, je suis quand même intrigué par Patrick Mahomes, un peu plus calme et motivateur de la semaine dernière. Après, moi, je reste un peu dubitatif plus sur les cibles, quoi. C'est-à-dire que Lamar a l'air d'avoir... Je ne sais pas s'il a plus de matos. Isaiah Likely est sur une super dynamique. Zay Flowers est là. Il trouve des solutions. Je sais pas en termes, tu vois, de groupe de receveurs, tu prendrais lequel?
Ah, je prends les Ravens tous les jours.
Ouais.
Oh, tous les jours. Attends, c'est bon, groupe de receveurs. Non. Pour le coup, il y a quand même beaucoup plus de diversité. Il y a en plus potentiellement un retour de Mark Andrews, écran de fumée ou pas. C'est toujours un
après, peu. Après, il y a quand même un Hall of Famer comme Travis Kelce. Hein,
Oui, mais après, Travis Kelce, il a été très moyen toute la saison.
C'est vrai.
J'avais dit dans le podcast preview, j'avais dit soit il sera mauvais, soit il va sortir le meilleur match de sa saison. Bon, il a sorti le meilleur match de sa saison. Bravo à lui. Jason avait l'air très content dans les tribunes. Mais pour le coup, il va falloir réussir à nouveau cet exploit. Tu vas avoir Roquan Smith et Marcus Williams sur le dos ou Kyle Hamilton. Enfin, tu vas pas avoir Jean-Michel remplaçant. Donc attention, ça va pas être aussi évident.
Le pronostic.
Ah, moi, je pars sur les Ravens. Moi, je suis un Lamar believer. Je voulais pas choisir entre mes enfants Josh Allen et Lamar Jackson. Maintenant, c'est plus facile. Ça sera Baltimore jusqu'au bout.
Je rappelle, avant de donner les pronos d'ailleurs, que Victor est leader avec 196 points dans la course au pronostic, devant Lucas 194, Raphaël 191, moi-même 186, Grégory 179 et Raoul 168. Donc ça joue encore la gagne. Victor, donc tu prends les Ravens. Tiens, c'est marrant, sur le prono, je suis allé sur Ravens. Ah oui, je suis allé sur Ravens parce que Lucas et Raphaël prennent les Chiefs. Donc j'essaye de remonter sur eux. Et si je devais le faire sans la facteur remontée par remontée, franchement, je mettrais bien une petite piécette sur les Chiefs, quoi. Tu vois.
Bah, de toute façon, on va y venir avec le deuxième match et ça permettra une transition. Mais je vois l'univers où les Chiefs en feu et à l'expérience sortent Ravens.
Le scénario de l'exploit, on va faire ça pour les deux. Le scénario de l'exploit, c'est quoi? C'est les Ravens démarrent mal, paniquent un peu, mauvais match pour Lamar Jackson, un peu les fantômes du passé dont on parlait sur le mauvais début de match.
C'est ça, c'est une ou deux pertes de balles, des Chiefs qui font ce qu'ils savent faire cette année, c'est-à-dire avancer sans être spectaculaire, mais avancer et prendre 10-14 points d'avance, et puis t'as un peu un effet boule de neige, quoi. Parce que mine de rien, les Ravens, c'est pas une équipe qui mise sur des actions de 60 yards pour remonter le terrain en 2 minutes. C'est une équipe qui aime quand même bien construire son jeu, construire son match.
Et alors j'allais dire, il y a un autre scénario pour moi, c'est les Ravens construisent bien, mais sont inefficaces dans les derniers yards, se contentent de quelques field goals. Les Chiefs restent à portée de tir et réussissent 2-3 exploits en fin de match.
Ah bah, on l'a vu avec les Packers, on l'a vu plusieurs fois en Divisional. Avancer le ballon, c'est bien. Réussir en red zone, c'est mieux. Après, quand même, hein, le fait d'avoir Lamar Jackson, ça te donne une petite option.
Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, je veux dire, on a vu Baker Mayfield intercepté en fin de match, on a vu Jordan Love intercepté en fin de match. Si tu laisses ce genre de ballon-là à Patrick Mahomes,
ça peut être autre chose.
Donc encore une fois, Ravens pour Victor. Moi, je mets Ravens sur le pronostic officiel pour essayer de remonter Raphaël et Lucas, mais si je devais parier avec zéro paramètre de score à rattraper, etc., je crois que j'irais bien sur les Chiefs.
Il y a 4 pronos de Chiefs. Hein. Je ne sais pas si c'est rapport à moi ou pas. Mais...
Je crois qu'ils essayent de remonter pour jouer la gagne.
Hein. C'est possible.
C'est un peu ça. Deuxième match, dimanche. Alors, dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30. Officiellement, c'est lundi minuit 30, mais dimanche à minuit 30. San Francisco 49ers, Detroit Lions. Les Niners sont tête de série numéro 1. Les Lions, tête de série numéro 3. Match diffusé en direct et gratuitement sur W9, je le précise, avec Raphaël et moi-même au commentaire. Dans la conférence NFC, donc, c'est toujours la tête de série numéro 1 qui est là aussi. Face à eux, les Detroit Lions qui ont gagné 2 matchs de playoff pour la première fois de leur histoire la même année. Cette fois, les Lions n'auront pas leur public derrière eux comme sur les 2 derniers matchs, puisque ça se joue à Santa Clara. Et là, la question du favori, elle se pose pas vraiment, Victor.
Oui, la question de favori, elle se pose pas vraiment. Sur le papier, l'effectif des Niners est largement supérieur à celui des Lions. Et ce n'est pas faire injure à l'effectif des Lions, hein, qui est tout à fait admirable. Mais si tu veux, les Ravens, c'est typiquement l'équipe qui a loupé son premier match parce que ça fait 3 semaines qu'ils ont pas joué, parce que voilà, tu t'affrontes une équipe en pleine confiance, etc. Mais ils ont réussi à le gagner, ce mauvais match, entre guillemets. Et du coup, en général, ce type d'équipe, une fois qu'elles ont survécu au mauvais match, elles retrouvent rapidement leur niveau. En plus, tu l'as dit, c'est chez eux. Mine de rien, Détroit, San Francisco, bon, on va me dire, oui, ils sont dans des avions en classe affaire, mais c'est pas à côté quand même. Donc oui, je pense que San Francisco va être largement favori de ce match.
si on prend les quatre escouades, les deux attaques, les deux défenses, est-ce que c'est la défense de Détroit qui les met nettement dans ce statut d'outsider, puisque ça semble être l'escouade faible de ce match? C'est la sixième équipe qui a autorisé le plus de yards à la passe cette saison. Baker Mayfield en a mis 349 contre eux notamment. Donc j'ai envie de dire que même si Deebo Samuel est incertain pour ce match, au moment où on enregistre, et je pense au moment où vous écoutez, il sera toujours incertain, il sera incertain à peu près jusqu'au bout, puisqu'il est touché à l'épaule et que Kyle Shanahan parle de 50-50 pour sa participation. Est-ce que même sans Deebo Samuel, il y a quand même toujours trop d'armes du côté de San Francisco pour cette défense des Lions?
Oui, oui, je pense. Je pense que le back seven, donc ce qu'on appelle le back seven, c'est les linebackers et les defensive backs, des Lions méritent du raffinement. Alors le retour de Garner Johnson fait du bien. On a d'autres joueurs qui sont vraiment en train de trouver du rythme, même Melifonwu qui fait une saison extraordinaire. Malgré tout, il y a quand même énormément d'armes au niveau des Niners. Les Kittle, les Ayuk, Christian McCaffrey et compagnie. Ça va être quand même très difficile, même si je pense que les Niners peuvent souffrir au niveau de la ligne offensive. Malgré tout, ils ont les schémas pour s'en sortir à base de passes écran ou de passes courtes ou autres. J'ai peur, en effet, que la force de frappe des Niners soit trop forte pour cette défense de Détroit, qui, on l'a vu, a craqué quelques fois cette saison.
Les Lions prennent un petit peu plus de 23 points par match cette saison. C'est la 23e moyenne de points encaissés dans la ligue. Alors que par comparaison, par exemple, San Francisco en prend 17,5. C'est la 3e moyenne en NFL. Donc c'est encore une fois les squads faibles. Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour contrer Christian McCaffrey en 1 d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu le moteur?
Oui, d'ailleurs, ça me fait remarquer dans ce que tu dis que les défenses 1, 2, 3 sont en divisional. Les défenses gagnent les championnats. Ne l'oubliez jamais. Écoute, j'ai envie de dire que le seul point faible, si encore on puisse parler de point faible dans une équipe aussi complète que San Francisco en attaque, c'est le côté droit de la ligne offensive, avec notamment McKivitz qui souffre beaucoup. Donc je pense que il y a deux aspects en fait. Sur le côté droit, il faut gagner cette guerre avec notamment Hutchinson, etc. Sur le côté gauche, quand ça va courir côté Trent Williams, il va falloir être beaucoup plus inventif, voire préventif. Et du coup, en fait, une des clés, ça sera vraiment d'anticiper les jeux de course de San Francisco. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu peur pour cette équipe de Détroit. C'est que si elle commence à mettre beaucoup de joueurs dans la boîte, Purdy va faire sa petite play action pour Brandon Ayuk et merci, au revoir. Donc encore une fois, la recette, ça va être ce qu'a réussi à faire les Ravens, mettre beaucoup de pression, espérer des erreurs individuelles. On se souvient que Purdy fait 4 interceptions de mémoire contre les Ravens, bon, pas toutes de son fait, mais en tout cas San Francisco commet 4 pertes de balles. Ça va passer par là, hein. Ça va passer par avoir un peu de chance, provoquer des pertes de balles et essayer de limiter McCaffrey, parce que tu n'arriveras pas à l'arrêter, mais il faut le limiter.
Tu le disais, il y a Brandon Ayuk, il y a George Kittle, il y a beaucoup de monde pour prendre le relais. Deebo Samuel, je reviens sur l'éventuelle absence et son impact. En saison régulière, ils sont à 7,1 yards par action quand Deebo Samuel est sur le terrain, 5,7 quand il n'est pas sur le terrain. Et ils étaient à 12 victoires, 3 défaites avec Deebo Samuel, 0 victoire, 2 défaites quand il est absent cette saison. Évidemment, c'est deux matchs, donc ce n'est pas un échantillon non plus monumental, mais il a une influence, donc s'il est absent, il jouera quand même un petit peu.
Oui, ouais, c'était cette fameuse série de trois matchs qui perdent contre les Browns et Vikings, et je ne sais plus quelle est la troisième. Mais oui, c'est sûr que Samuel est important, mais bon, comme tu dis, on ne va quand même pas surintellectualiser deux matchs, non. Ça n'en fait pas une généralité.
Alors, si on parle de la défense des Lions, c'est donc parce que les deux attaques sont clairement les points forts de ce match. Les Lions sont 5e sur les points marqués cette année, les 49ers sont 3e. Les Lions sont 2e sur les yards à la passe, les 49ers sont 4e. Au sol, les Lions sont 5e, les 49ers sont 3e. Donc, vous voyez que c'est un peu proche partout, que ça attaque très bien partout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le même profil d'attaque, c'est-à-dire un peu quarterback solide entouré de plein d'armes?
Oui, d'une certaine manière. Après, une des différences pour moi reste que le schéma de San Francisco est basé sur Christian McCaffrey. McCaffrey. Tandis que le système des Lions est basé sur une rotation de joueurs à beaucoup de postes, et notamment au poste de running back, entre le un peu plus massif Montgomery et le plus feu follé Gibbs, on va dire ça comme ça. Donc, on va dire que à San Francisco, il y a quand même un schéma qui repose beaucoup sur 3-4 individualités. Là où Détroit, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus collectif et un petit peu plus flexible, notamment parce que à Détroit, on a ce qui est probablement la meilleure, ou en tout cas, une des top 3 lignes offensives de cette ligue.
Donc ça, c'est quand même un avantage pour eux, pour résister au pass rush de San Francisco, pour résister à cette défense. Ça joue quand même pour eux.
Le pass rush de San Francisco, ça a été quand même la grosse déception de cette fin de saison.
Alors, c'est vrai que j'allais te dire, est-ce que c'est pas une défense de San Francisco un peu plus prenable que ces dernières années et qui est un peu plus sur sa réputation?
Ah bah, s'ils font le même match que contre les Packers, oui, clairement. Parce que contre les Packers, pourtant les Packers, c'est pas non plus la ligne offensive la plus incroyable de la ligue. C'est une bonne ligne offensive, mais c'est pas top. Je veux dire, Bosa, Armstead et compagnie, on se demandait où est-ce qu'ils étaient. Ils étaient peut-être déjà à Cancun pour rejoindre leurs copains, parce que sur le terrain, en tout cas, on les a pas vus. Et ça va être une clé. Parce que là, ils affrontent quasiment ce qui se fait de mieux. Et là, pour le coup, de tous les côtés. C'est-à-dire que ce soit côté droit avec Sewell, que ce soit côté gauche avec Decker, ou au milieu avec Ragnow, bon, globalement, tu as 3 All-Pro sur les 3 positions clés. Donc, il va falloir gagner cette bataille-là, parce que s'ils sont aussi inoffensifs contre les Packers, ils vont s'en prendre encore plus que contre les Packers.
Donc, on parlait de match défensif pour le Ravens-Chiefs. Celui-là, il pourrait être offensif quand même relativement. Si la défense de San Francisco est bien maintenue par cette ligne, ça peut être une petite explosion offensive.
Oui, je pense qu'il y aura plus de points dans celui-là que dans l'autre, oui.
C'est assez bluffant, je parlais des profils similaires, les quarterbacks statistiquement. T'as un quarterback qui a 30 touchdowns et 12 interceptions et cette saison, et l'autre qui a 31 touchdowns pour 11 interceptions. C'est Goff qui a 30 touchdowns et 12 interceptions, et Purdy qui a 31 touchdowns et 11 interceptions. Donc légèrement mieux statistiquement pour Brock Purdy, mais c'est deux joueurs à qui fondamentalement on demande la même chose, non, c'est-à-dire distribuer, réussir quelques actions clés et surtout pas perdre le ballon.
Exactement. Alors ça jouera ou pas, mais le facteur expérience du côté de Goff, puisqu'on rappelle
que
Goff, ouais, est allé. Goff pourrait devenir un des rares quarterbacks à emmener deux franchises au Super Bowl.
C'est vrai.
C'est statistique. C'est vrai.
Avec les Rams, il l'a joué. Ouais.
On pense ce qu'on veut de Jared Goff en tant que joueur, mais il est à un match de marquer l'histoire. Surtout s'il amène Détroit. Historiquement, ça a quand même un poids. Pour revenir sur ta question, sans digresser, l'un et l'autre, en fait, ils ont eu des matchs sans, avec des paires de balles. Et en fait, quand tu regardes, c'est des équipes tellement bien huilées que quand tu regardes leurs défaites, c'est toutes celles où ils perdent à balle. L'humiliation des Packers contre les Lions, c'est des ballons perdus très rapidement. Les Ravens contre les Niners, c'est des ballons perdus très rapidement. Même, on parlait des défaites d'avant des Niners, c'est les seuls matchs où Purdy lance 2 interceptions. Donc, vraiment, ils ont un système qui marche. Perdre des ballons, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est vraiment faire confiance au système et prendre le moins de risques possible.
Donc, le pronostic de ce match. Juste pour te dire, ils se sont affrontés en 2021. Les 49ers avaient gagné 41-33, mais ils se sont pas affrontés beaucoup. En playoff, ils se sont pas affrontés depuis 1983, je crois. Ils se sont affrontés deux fois en playoff, c'est 57-83. Donc bon, je vais vous épargner les références de cela. Le pronostic avec un petit facteur X, si t'as, allez.
Écoute, comme j'ai pas envie de perdre des pronos, j'ai mis les Niners.
C'est logique après.
Je pense qu'ils sont quand même les extrêmes favorites ce match.
Alors, moi, je te donne un scénario encore une fois, de l'exploit pour les Lions. Ce serait la ligne offensive fait un super boulot, ça ouvre bien des brèches, ça protège à fond, et ça leur donne une chance dans un petit festival offensif.
En fait, il faut que l'attaque marche bien des deux côtés et perdre 2 ballons de moins que les Niners.
C'est ça.
Genre 0-2 ou 1-3, quelque chose comme ça. Écoute, le facteur X sur ce match, pour moi, c'est justement Bossa, en fait. C'est si tu retrouves le Bossa de la grande époque, ça peut faire tourner le match, en fait. Ouais. Si tu as le Bossa absent, comme on l'a vu ces dernières semaines, bah, c'est sûr que ta défense est tout de suite plus vulnérable. Donc, pour moi, le facteur X, c'est vraiment lui et par extension, la ligne défensive des Niners.
Donc, 49ers pour tout le monde. Et je vous rappelle que les Lions jouent pour atteindre leur premier Super Bowl. Ils font partie du groupe de 4 équipes qui n'ont jamais joué le Super Bowl avec les... Ah, je te vois lever les yeux. Est-ce qu'il t'en manque une ?
Les Texans, ça, c'est sûr, parce qu'ils sont c'est très sûr. Récents. Les Jaguars.
C'est ça.
Et il m'en manque une. Ça doit être encore dans les équipes récentes, du coup. Ah ben non, les Browns.
Les Browns. Les Browns, c'est, bah oui, c'est l'inverse, sûr. C'est une des plus anciennes.
C'est une des plus anciennes.
C'est une des plus anciennes. Bon, après, les Browns, on rappelle que les Browns originaux ont été déménagés à Baltimore. Hein, donc,
Oui, ils ont gagné Browns... 2 titres et presque 3, c'est ça. Hein, du coup.
Les Browns originaux, c'est les Ravens. Donc, c'est les Browns de Cleveland, ceux qui n'ont pas bougé de Cleveland, qui n'ont jamais joué le Super Bowl. Mais la franchise a bougé et a changé de nom pour devenir les Ravens avant d'être réimplantée sous forme de nouvelle franchise à Cleveland. Donc, ça, les Browns, officiellement, n'ont jamais joué le Super Bowl. Voilà pour la preview des deux finales de conférence. Petite interlude et les codes de la...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bon, alors là, pour les YOLO, moi, j'ai pas fait de preview depuis un moment, mais ça se complique parce qu'il y a plus que 2 matchs. Hein, donc, on est sur les cotes avec Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne. Victor, on va faire un match chacun, c'est plus simple.
Oui, bah, nous, sur les cotes, on était allés sur du YOLO, on est allés dans le détail des marqueurs de touchdown et compagnie, quoi.
Ok, bon, alors déjà sur les matchs. Ravens-Chiefs, 1,44 pour les Ravens, 2,24 pour les Chiefs au moment où on enregistre. Bah, les Ravens, à 1,44, ça paraît être le plus logique, quand même.
Ah bah non, moi je dirais que non. Là pour le
ah
coup,
bah non, je te dis une bêtise. Oui,
autant
oui, non,
jouer les Chiefs qu'on la cote parce que c'est des deux matchs, c'est celui où je vois une éventuelle
oui,
surprise.
Oui.
Donc.
Non, t'as raison, je m'embrouille avec l'autre. En effet, c'est là où c'est plus proche du 50-50, donc autant prendre la plus grosse cote. Les Chiefs à 2,24 et dans l'autre, 49ers à 1,27, Lions à 2,85. Là, c'est sûr que les 49ers à 1,27 me semble plus logique.
Là, oui.
Donc, si on suit ça, les codes de la semaine, c'est un remake du Super Bowl qui s'est joué en 2020. Chiefs 2,24, 49ers 1,27. Si vous voulez faire un YOLO de match, c'est Chiefs et Lions, puisque c'est 2,24 et 2,85. Le YOLO de match, il a 5 euros misé, 31,92 euros de gain potentiel, si vous faites un Chiefs-Lions au Super Bowl. Et après, qu'est-ce qu'on peut creuser ? Alors, dans le Ravens-Chiefs, qu'est-ce qu'on a un peu ?
Alors, moi, dans le Ravens-Chiefs, j'avais... Les deux joueurs marquent un touchdown.
Yes.
Et mes deux joueurs, c'est Lamar Jackson et Isaiah Pacheco.
Yes, 3,90.
Isaiah Pacheco, d'ailleurs, parce que ça me vient du basket entre les Isaiah et les Isaiah. J'ai toujours
un galère,
peu de mal.
Ça.
C'est Isaiah Thomas, Isaiah Thomas, tout ça, tout ça.
Je sais jamais comment les écrire.
Tu sais jamais s'il y a un A, deux A ou un A. Ouais. Ouais. C'est assez terrible.
Où est le I
J'ai toujours envie de les écrire comme le bad boy. Mais donc ouais, je trouve que ça.
Non
peut
mais
être
oui,
pas mal.
3,90, c'est pas mal. C'est pas mal. J'étais en train de regarder après. The Flowers, Travis Kelce, c'est 5,30 pour les doubles marqueurs.
Ok.
Lamar Jackson, Odell Beckham, 7,75. Bon, après, là, on rentre un peu dans les... Ouais, Patrick Mahomes, Travis Kelce, 9,75.
Ouais.
Ouais, j'aime bien ça. Travis... Patrick Mahomes qui marque au sol et qui en donne une à Travis Kelce, 9,75. Il n'y a pas un... Alors... Ah non, c'est... oui, Jackson Kelce, c'est le plus bas. J'allais dire, c'est... ça me paraît être le plus évident. Lamar Jackson, Travis Kelce, c'est 3,90 aussi. C'est comme Jackson Pacheco. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Je suis en train de regarder un petit peu. Donc, marqueur de touchdown. Ah oui, tu peux mettre Lamar Jackson à 2 touchdowns ou plus, c'est 6,90 aussi, hein, si tu veux.
Mais du coup, 2 touchdowns au sol, je suppose.
Ouais, c'est au sol.
Ouais.
C'est au sol. Marqueur de touchdown et son équipe gagne. Moi, j'aime bien celui-là. Parce que ça te permet de gonfler un peu une cote, tu vois, si tu crois vraiment que les Ravens vont gagner, bah tu mets Lamar Jackson plus son équipe gang, ça fait 2,45, c'est pas mal.
Mm-hmm.
C'est pas mal. Voilà pour les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Et ben voilà, Victor, pour la preview des finales de conférence. On va se retrouver donc. Alors attends, je vais sortir un petit peu mon programme parce que là ça va se chambouler. Après, il y a la semaine Super Bowl. Alors, on va y avoir le fauteuil du Super Bowl des finales de conférence 19h30 ce dimanche avec Lucas Vola. Ça déjà. À ne pas rater. Nous, on sera donc sur W9 à 12h30 dimanche pour le 49ers Lions. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de remarques que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux à propos des horaires, etc., etc. Je vais pas rentrer là-dedans. Je comprends tout à fait certaines des remarques. Juste pour vous dire que c'est très très simple le fonctionnement de la télé. Si vous voulez qu'à l'avenir les horaires soient un peu différents, bah il faut regarder la télé. C'est assez simple. Hein. C'est que quand il y a des audiences, ils exposent plus. Donc voilà, c'est comme ça. J'aimais pas de jugement dans un sens ou dans l'autre, c'est comme ça. C'est juste que les choses sont comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder en masse, montrer qu'il y a plein de gens qui regardent, et peut-être qu'à l'avenir, il y aura des horaires un peu plus tôt, mais c'est déjà très cool quand même d'avoir un match gratuit à 12h30 et une finale de conférence. Je vais pas faire le vieux con, genre à mon époque, on était déjà contents et tout. Mais voilà, donc nous, et évidemment, moi je suis biaisé, je suis hyper content de la commenter, donc je suis hyper content quoi qu'il arrive. Mais voilà, mais donc n'hésitez pas à regarder en masse et à montrer que ça peut faire de l'audience et peut-être que voilà. Victor, donc ensuite on se retrouvera toi t'es sur le débrief des finales de conférence la semaine prochaine et puis après on te retrouvera, on l'espère, passeport, douane, tout ça depuis Las Vegas. On essaiera de faire des petites pastilles, vous trouverez ça sur votre flux de podcast au cours de la semaine précédant le Super Bowl. Il y aura aussi évidemment une grande preview du Super Bowl et plein plein de choses. Vous verrez tout ça sur le site, tout ça s'organise. Il y aura un live Twitch aussi avec le face-à-face post par post du Super Bowl. Vous avez l'habitude, maintenant on le fait tous les ans. Donc voilà, il y a plein de choses qui se préparent. Merci beaucoup Victor.
Merci Alain, merci à tous.
Avant, faut quand même, je pose la petite question. Après on te traitera de chauvin ou pas, j'en sais rien, mais t'es obligé de nous dire maintenant, tu vas regarder ces deux matchs en espérant que qui va au Super Bowl, si tu vas voir les deux équipes, et en plus côtoyer les joueurs, les coachs, etc.
Les Ravens, ça me plairait vraiment bien. Après, de l'autre côté, tout est star de San Francisco ou vivre l'histoire d'un premier Super Bowl de Détroit, les deux me chaufferaient. Donc, il y a vraiment, et c'est un phénomène naturel, mais quand il y a des équipes qui gagnent tout le temps, à un moment, t'as un peu envie de changement. Et c'est pas contre les Chiefs, mais bon, on les a vus au Super Bowl 3 fois sur les 5 dernières années. Il y a un moment, t'as envie de voir d'autres équipes.
Ça me rappelle l'époque où j'allais au Super Bowl et derrière Raph, Greg, etc. Je me disais, mais en fait, on voit tous les Patriots tout le temps.
C'est ça.
Genre, on a tous vu les Patriots jouer un Super Bowl au bout d'un moment. Donc là, ça commence à faire pareil avec les Chiefs parce que Raoul les a vus jouer un Super Bowl, Nicolas les a vus jouer un Super Bowl, toi, tu les verrais jouer un Super Bowl. Donc ça commencera à faire beaucoup dans la rédac. Mais je réalise. T'as pas envie de voir Andy Reid en vrai?
Si, il y a ce côté-là quand même, c'est le coach de ma jeunesse, c'est celui qui m'a accompagné sur les 15 premières années de ma carrière de fan, je suis d'accord. Même si les plus jeunes d'entre vous ne savent même pas qu'il a été coach des Eagles pendant 15 ans, et ça c'est triste, mais c'est naturel.
Si vieux que ça, il est parti en quelle année?
2012.
Ouais, c'est...
Ça
fait déjà 12
ça
ans.
Ça fait un moment, oui.
Ah ouais, je prends un coup de vieux aussi. Ouais, mais tu vois, comme le podcast existait déjà.
Ah oui, mais bon, là monsieur, en 10 ans, s'il y a personne qui regarde le foot américain à 23, 24 ans, il y a peu de chances que. qui a été bon à l'époque. Donc,
Je me rappelais pas que ça faisait si longtemps.
Eh oui, mais voilà, oui, il y a le côté Andy Reid, mais à part ça, moi, en soi, je vais te dire, hein, j'ai eu la chance de faire Brady à Munich. Si je fais Mahomes, dans ma vie, j'aurais fait interview de Brady et de Mahomes. Je serais très content, tu vois, mais.
C'est marrant, tu vois, moi ça m'a fait ça, justement à l'époque, c'était d'avoir vu Manning une année et Brady la suivante, tu vois, de me dire, ouais, j'ai quand même vu les deux légendes, quoi.
Ouais, donc, moi, c'est, Mahomes, ouais, avoir
c'est
vu
la
Brady,
légende de l'année, quoi.
Avoir vu Brady quand même, en plus, j'étais arrivé vraiment le premier, donc j'étais au deuxième rang, littéralement, parce que le premier rang était réservé pour les médias officiels des Buccaneers. Et là, littéralement, à 3,50 m de toi, t'as Tom Brady et... Ouais, là, ouais, non, tu te dis, c'est quelque chose, quoi.
C'est particulier, hein, clairement. Moi, je vais pas mentir, j'ai zéro honte. Hein. Ça me ferait quand même un peu kiffer qu'il y ait les Chiefs au Super Bowl pour que la story Taylor Swift continue avec la NFL.
Oh.
Ah, mais ouais, mais attends, mais moi, je suis ambiancé. Attends, je vais être sur M6 pour le Super Bowl. Je vais peut-être intervenir pendant quelques interruptions, machin et tout. Franchement, ça fait partie du show. On regarde un truc américain, il y a du show, il y a des pubs pour des trucks, il y a des machins. Ça fait partie du truc, tu vois, d'avoir des stars.
Tu sais donc, qu'il y avait une théorie du complot sur pourquoi Taylor Swift n'est pas à la mi-temps du Super Bowl.
Pourquoi je suis pas étonné qu'il y ait une théorie du complot sur ça aussi. j'en doute pas qu'il y avait une théorie du complot sur ça.
L'idée, c'est
aussi
qu'en fait, elle est tellement connue qu'il y aurait beaucoup de gens qui achèteraient un billet pour Taylor Swift sans vraiment être fan du foot américain.
Alors, j'y crois absolument zéro pour la simple et bonne raison que la NFL rêverait de l'avoir.
Possible.
Je pense que la NFL rêverait de l'avoir. Mais donc j'y crois absolument pas. La NFL voudrait avoir. T'imagines, c'est une des plus grosses artistes au monde actuellement.
C'est sûr. Et puis ils ont fait Michael Jackson à une époque. Hein.
Non mais voilà. Enfin, je pense que vraiment c'est. Non, j'y crois zéro. Et non, mais moi je suis chaud bouillant. Franchement, on aurait des trucs à dire. Ce serait rigolo. Et puis voilà, elle serait là. Il y aurait des. Moi je suis chaud.
J'aurais peut-être la chance d'avoir en interview Jason Kelce. Hein. Sait-on jamais. Peut-être qu'il se ramènera pendant la semaine média. Hein.
Ah bah c'est obligé. Franchement, il y a moyen de au Radio Row, il y aura du monde. Enfin, non, moi je suis chaud. Franchement, l'histoire Taylor Swift. Et puis parce que ça ferait venir mine de rien. Moi, maintenant que je fais de la télé, je regarde les audiences et tout. Tu vois, je me dis, si à Taylor Swift, ses fans y regarderont peut-être sur M6, on fera plus d'audience. Tu vois.
C'est pas faux.
Moi, je suis devenu hyper basique. Tu vois, genre, je vais chercher l'audience là où elle est. Donc, à part si Lamar Jackson il veut commencer à sortir avec Rihanna ou un truc comme ça, pourquoi pas? Mais moi toutes les affiches me vont aussi en vrai. J'ai pas de préférence non plus. Détroit, ce serait une sacrée histoire quoi. Détroit, ce serait une sacrée histoire. Bon, et ben on va arrêter de digresser. C'est comme ça qu'on termine le 721. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a aussi les bonnets qui sont chez Brooklyn Fizz. Vous avez les bonnets TD Actu si vous avez froid aux oreilles en ce moment. N'hésitez pas. TDActu.com pour toute l'actu de la NFL. Vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux sur le site. Merci encore une fois, Victor. Et très bonne finale de conférence à toi. Et très bonne finale de conférence à tous. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on file.